Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ce soir, on va parler de Roadblock End of the Line, le dernier pay-per-view de l'année pour la WWE, donc un catch-up hors série. Pour m'accompagner ce soir, le Tony Truant, l'expert de la vie américaine, l'amiral Ambar. Comment vas-tu, amiral?
Hello, salut, ça va très bien, comment ça va toi?
Oh, moi, c'est la pêche, c'est la forme.
Eh
C'est
ben, visiblement.
Noël, c'est les sapins, la neige, tout ça.
C'est ça, fini 2016, le
Voilà.
dernier pay-per-view de l'année, comme tu dis, et on va voir ce que ça nous réserve.
C'est ça, c'est
So,
ça.
what block, end of the line.
End of the line. Donc, ça se passait le 18 décembre 2016. Et ça se passait à Pittsburgh, au PPG Paints Arena. Donc Pittsburgh, c'est dans l'état de Pennsylvanie,
Ah,
et
ouais.
c'est une ville qui est connue pour ses nombreux ponts, hein. Il y en a plus de 400 et ils ont aussi deux funiculaires, pas moins de deux funiculaires.
Wow.
Impressionnant, n'est-ce pas?
Je comprends pourquoi, avec une ville qui est connue seulement pour avoir beaucoup de ponts et de funiculaires, pourquoi c'est un public quand même un peu pourri, quoi, là.
C'est ça, c'est ça. Il paraît qu'ils ont eu assez de mal d'ailleurs à vendre des places pour Roadblock. Il paraît qu'ils les vendaient deux pour le prix d'une sur la fin.
Ah
Alors
oui.
c'est peut-être parce que l'affiche n'était pas phénoménale.
Mmh.
Bon, on a quand même ce soir la défense du titre tag team, la défense du titre féminin et du titre universel. Donc bon, on va commencer tout de suite avec le pré-show. Je sais pas si tu as
C'est
vu le
parti.
kick-off. Tu l'as vu?
Ouais, j'ai regardé ça.
C'était donc le Bulgare, la brute bulgare Rousseff, accompagné de Lana, qui affrontait ce bon vieux Big Cass. Big Cass qui était accompagné d'Enzo. Donc on vous rappelle que Rousseff avait défoncé Enzo dans un hôtel après que Enzo ait accepté une invitation de Lana dans le dos, hein, de Rousseff officiellement, mais en fait c'était un piège. Et aujourd'hui, Big Cass, eh bien, il vient se venger. Donc on a un match assez court de 4 minutes 25 qui démarre quand même bon, par une petite promo de la Team Soft, hein, avec Enzo et Cass qui débarquent au ring après que Lana et Rousseff soient arrivés. Donc en gros, Enzo il explique que ben, il a été un petit peu idiot, hein, le soir là quand il a été dans cet hôtel, parce qu'il aurait dû demander à se faire payer avant d'entrer dans la chambre. Voilà, hein, il se fait un peu passer pour le gigolo de service.
Classe, très
classe,
classe.
la classe totale. Voilà, donc bon, le match, comme je vous l'ai dit, 4 minutes 25, donc c'est assez rapide. Grosse domination de Bicasse en fait, hein, sur Rousseff. Rousseff n'arrive pas à placer grand chose. Il va même donc faire mine de s'enfuir dans le public carrément. Il passe la barricade, il s'enfuit dans le public. Il est poursuivi par Bicasse. Mais bon, Rousseff arrive finalement à se défendre et il revient aux abords du ring. Là, aux abords du ring, qu'est-ce qui se passe? Il y a Enzo qui est en train de s'engueuler avec Lana. Lana fait mine de s'être tordu la cheville. Donc Enzo, il est un peu désemparé et il se fait cueillir par derrière par ce bon vieux Rousseff, par une grosse clothesline. Bicasse, il revient aussi aux abords du ring. Là, il va voir Enzo pour voir si Enzo est pas blessé. Mais pendant tout ce temps, bah, l'arbitre, lui, l'avait compté, hein, parce que les gens étaient à l'extérieur, les deux adversaires. Et Rousseff, lui, remonte sur le ring. Bicasse, il a pas le temps et il se fait décompter à l'extérieur du ring. Donc, victoire sans panache de Rousseff sur un décompte extérieur. Voilà, il se passera pas plus de choses. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit kick-off?
Bah, c'était très, le résultat du match était très prévisible, puisqu'à partir du moment où un arbitre commence à décompter une sortie d'extérieur, on sait que quelqu'un va perdre par décompte, hein, parce que la plupart du temps, ils font pas le boulot, les arbitres.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est typique, ça, on le sait. Non, bah, comme tu dis, c'était super court, donc il y avait pas vraiment grand chose à mettre sous la dent. Par contre, pour une fois, on voit un match de kick-off qui, il y a une storyline, en fait. Il y a une histoire qui est racontée. Qui vaut ce qu'elle vaut. On a pas mal parlé de ce positionnement un peu bizarre des Faze, donc Kenzo qui veut draguer Lana et le mari de Lana qui lui met une trempe parce qu'il voulait draguer sa femme. Donc le placement Faze Hill, il est un peu strange sur cette feud. Mais dans tous les cas, c'est, je crois, une des premières fois où on a un match donc de kick-off où il y a une histoire dans les catcheurs qui sont impliqués. Donc ça, on va pas s'en plaindre. Parce que pour une fois, c'est pas juste, tiens, toi et toi, vous faites rien pendant pay-per-view, eh ben venez, vous allez faire un match de kick-off pendant 5 minutes, quoi. Donc le match n'était pas sensationnel en soi, mais au final, comme un kick-off, ça faisait le job parce que voilà, les gens avaient suivi dans les deux rows précédents l'histoire de ce qui s'était passé. Donc, ok.
Exactement, exactement. Ça avait fait un peu scandale, hein, toute cette histoire-là de ce petit Enzo là, qui allait
Ouais.
coucher avec une femme mariée.
C'est ça, l'Amérique
Hein?
puritaine, l'Amérique
L'Amérique
forte,
puritaine
elle n'est
s'est
pas d'accord.
levée comme un seul homme, hein, pour condamner cette
Mais oui.
histoire. Mais bon, ma
Non, la,
foi.
la, la manif pour tous, d'ailleurs, a fait une pétition pour que
C'est
Enzo
ça.
soit suspendu 30 jours auprès de la WWE. Hein, ça
Parce
se fait
que,
pas.
on le rappelle, hein, une famille, c'est un maman et une papa. Hein. Bon,
Voilà.
alors. Pour donc là c'est la suite, hein, on la verra à Raw, on vous en reparlera dans un prochain catch-up. Pour la suite, donc on va démarrer vraiment le pay-per-view et ça commence très fort avec la défense du titre tag team. Donc les New Day, les nouveaux recordman, hein, de longévité, hein, qui ont explosé le record des Demolition. Ils arrivent au ring et ils vont défendre contre Cesaro et Sheamus, l'équipe dysfonctionnelle. Donc on a bah, une petite promo, hein, du New Day qui avant le match, hein, comme d'habitude. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Hein, ils font des petites blagues, ils trouvent des sobriquets à Cesaro, etc. Ils chantent un peu des chansons. Rien d'exceptionnel. Donc, tout ça, de toute façon, ça se fait couper par l'arrivée de Cesaro et Sheamus, qui ont une très belle entrée, hein, maintenant, avec le
Ouais, c'est.
striptease en même temps que les flashs là sur
Sur
Sheamus.
Sheamus. Ouais, ça marche. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, c'était un peu foireux comment ils arrivaient sur le ring parce qu'ils arrivaient l'un après l'autre. Hein. Donc, toujours qu'on a une tag team avec deux méga stars et qui gardent leur musique d'intro, qu'il n'y a pas de cohésion, c'est un peu chiant. Ce qui était le cas au début. Puis après, ils commençaient à se chamailler, à se couper l'un l'autre. Ça, c'était assez fun d'ailleurs. Et là maintenant, ils en viennent presque à joindre les deux sur un moment, et avec le plan traveling qui tourne autour des deux en même temps, c'est plutôt pas mal. Le résultat, à ta gueule.
Effectivement, effectivement, bien travaillé tout ça
Ouais, tout en
sur
gardant
le.
le côté dysfonctionnel, comme tu dis.
Ouais. Alors, bon, je vais pas vous faire tous les matchs, mais celui-là, je vais vous le raconter parce que c'était quand même plein comme un œuf. Il s'est placé plein de choses dedans. On démarre avec Cesaro contre Kofi Kingston. Donc, ça commence tout de suite très fort avec Cesaro qui attaque avec un dropkick et qui tente direct le tomber. Tombé de deux, évidemment. Enchaînement, deux manchettes à l'européenne. Il y en a une qui est contrée. Il y a une tentative de crossbody par Kofi. Mais c'est contré par Cesaro. Ensuite, on a un duel de planchettes japonaises assez spectaculaire, où chacun réussit à retomber sur ses pieds à chaque fois. Finalement, interférence de Sheamus qui va prendre le relais. Il fait des suplexes sur Kofi. On enchaîne alors un enchaînement de Finlay, de Sheamus et un enchaînement tout de suite derrière de Cesaro qui fait un stomp sur le pauvre Kofi. Ensuite, on lui fait manger le coup d'épaule à la volée de Sheamus là par-dessus la troisième corde. Kofi est complètement isolé, hein, en début de match.
Ah, il se fait massacrer,
Il
ouais,
se fait
c'est assez
massacrer.
impressionnant.
Ouais, face à Cesaro, Sheamus qui sont très intelligents dans le match. Sheamus va même assommer Big E, qui est en attente donc à l'extérieur du ring, hein, qui est pas le mec officiel. Si bien que quand Kofi va tenter à plusieurs fois, hein, de profiter des ouvertures pour faire le tag, il trouvera jamais personne pour faire le changement.
Ouais, sachant qu'effectivement c'est Biggie et Kofi qui défendent le titre ce soir,
C'est
et
ça,
donc
effectivement.
Xavier Woods qui est sur le bord du ring comme souvent avec le trombone avec Francesca 2.
Ça. La configuration classique, on va dire.
Ouais.
Bon, Kofi finira quand même par déborder Sheamus et Big E donc va pouvoir rentrer dans la partie. Il va directement effectuer son spear suicidaire sur Sheamus. Il va ensuite le ramener dans le ring pour enchaîner avec un violent splash. Il tente le tomber, c'est un compte de deux. Sheamus reprend le contrôle grâce à un coup de guillotine à l'extérieur du ring. Il se fait ensuite contrer sur un dropkick qui est transformé en powerbomb par Big E. Compte de 2. Sheamus s'échappe ensuite du big ending. Il fait le tag. Et là, donc les Cesaro et Sheamus portent le white noise modifié, là où le geste est accompagné par un saut de Cesaro. Cesaro va ensuite tenter sa combinaison swing sharpshooter. Mais Kofi intervient. Sheamus veut l'aider, mais c'est le cafouillage. Il frappe par erreur Cesaro. Donc le New Day se débarrasse de l'Irlandais. Biggie projette Cesaro en l'air, qui est cueilli par un coup de pied de Xavier Woods, qui vient interférer dans le match pendant que l'arbitre a le dos tourné. On enchaîne sur un big ending. Donc là, on croit que c'est la fin. Mais Cesaro se dégage. Donc là, ils vont placer à nouveau Cesaro pour leur finish. Donc le big ending, mais accompagné du saut de Kofi. Je ne sais pas si ça annonce ça.
Non, je crois pas, non.
Je crois pas.
Non.
Mais Cesaro se dégage encore. Il arrive à éjecter Biggie du ring. Là, il porte un. Enfin, c'est pas qu'il se dégage, c'est qu'il arrive à se dégager de Biggie, et il va porter un Hurricanrana sur Kofi, qui est sur le coin du ring, sur la troisième corde. Donc ensuite, enchaînement de swing sharpshooter sur Kofi, pendant que Sheamus assomme Biggie avec un broad kick à l'extérieur du ring. Là, Kofi abandonne, mais c'est dans le dos de l'arbitre, puisque Xavier Woods est venu interférer. Cesaro contre ensuite un petit paquet en neutralizer. Alors ça, c'est de l'exceptionnel, hein. C'est-à-dire qu'il arrive à relever Kofi
Kofi, ouais.
et à le
Bah,
placer
on le
dans
dit
son coin.
souvent, hein, il est souvent vendu Cesaro comme étant le catcheur le plus fort, le plus puissant musculairement et physiquement du roster. Et c'est vrai qu'il y a des fois des démonstrations comme ça de force assez impressionnantes compte tenu de son gabarit. Bon, après Kofi, c'est sûr, c'est pas le plus lourd. Hein, c'est pas un Big Show ou même un Cena qui l'a levé, mais quand même. On se dit c'est un bel exploit quoi. Le mec il est par terre, il est surtout en train d'essayer de te coucher, faire le tomber, puis tu le relèves et le places en trailer.
Ouais,
J'étais ouais.
assez exceptionnel. Hein.
Ouais.
Donc là, Biggie casse le tombé. Cesaro arrive à envoyer Biggie à l'extérieur quand même. Sheamus prend le relais. Il y a Xavier Woods qui vient sauver Kofi d'un broad kick. Parce qu'il pousse Kofi, c'est lui qui se mange le broad kick. Là, bon, du coup, Woods est KO. Kofi porte un SOS sur Sheamus, mais c'est avec un compte de deux. Sheamus arrive à se sortir. Et Cesaro esquive alors un tag de Sheamus, c'est-à-dire que Sheamus vient, il veut lui taper dans la main, Cesaro retire sa main, mais Cesaro rentre quand même dans le ring, il se fait cueillir par un Trouble in Paradise de Kofi Kingston, mais au final c'est quand même Sheamus toujours l'homme légal, et du coup il se jette sur Kofi Kingston qui est complètement perdu, et il est en train d'essayer de faire le tomber sur Cesaro, il le plaque au sol fermement pour le compte de 3. Et c'est donc la victoire de Sheamus et Cesaro. Donc match de haute volée, 10 minutes 10. Donc après, il y a une petite séquence de fin où le New Day félicite Cesaro. Ils se prennent dans les bras, comme ça ils sont contents. Sheamus, lui, participe à la fête. Il s'empare des ceintures. Et puis c'est parti pour le concours de popularité entre Sheamus et Cesaro, où chacun lève les bras et les foules les acclament. Cesaro, lui, va se réfugier dans le public. Il va fêter avec le public. Voilà, donc moi je trouvais que c'était un très très gros match. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Bon.
Ouais, alors j'ai deux petites précisions avant de dire ce que j'en ai pensé rapidement. Sur la fin du match, donc effectivement, quand Cesaro esquive, entre guillemets, refuse le tag à Sheamus, c'est bien parce qu'il a vu qu'il y a Kofi Kingston qui arrivait et qu'il a pris une décision stratégique, en fait, qui était, ok, en fait, non, je vais pas prendre le tag, Sheamus va rester l'homme légal, moi je vais avancer pour me prendre Kofi en pleine poire, en gros. Et comme ça, voilà. Donc c'était vraiment une tactique en fait hein, quand il a esquivé
Ah
le tag.
oui.
C'était pas un refus de tag genre non je veux pas rentrer dans le ring. C'était vraiment une stratégie qui a payé donc qui était assez originale.
Ah oui,
Le
que ce
match en
soit clair.
lui-même, il s'est le match il s'est déroulé comme tu l'as dit, il y a eu des très bons trucs en 10 minutes, elles ont été bien chargées. Le New Day a déployé toute la stratégie. Woods a essayé a diverti l'arbitre. Il a frappé quelqu'un. Bref, il est intervenu. Ils ont fait leur petite technique de triche à trois classique. Mais le match était vraiment très très bon. Et donc à la fin, effectivement, quand Cesaro et Sheamus gagnent, Sheamus participe à la fête et chope les deux ceintures. Et il porte les deux ceintures lui-même, quoi. Il les garde les deux, même si je crois que Cesaro en récupère une à la fin. Mais voilà. Et donc il tease encore toujours le côté. Il y aura toujours une dualité dans cette tag team. Entre le tempérament de Cesaro qui va être plutôt face, qui va être à embrasser les New Day pour les féliciter d'avoir été champion pendant aussi longtemps, alors que Sheamus est toujours dans un côté un peu plus égoïste, pas vraiment heel, mais dans une tendance comme ça, à faire sa tête de cochon, à mépriser les gens, etc. Donc intéressant, intéressant. Petit bémol quand même sur le fait de faire perdre les New Day juste après que le record ait été battu. Parce qu'ils ont battu le record, comme tu l'as dit, de longest tag team dans la WWE. Ils l'ont battu quand lundi dernier, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Donc 6 jours avant le pay-per-view. Donc la première défense de match qu'ils ont juste après avoir brisé le record, avoir battu le record, ils perdent. Et je trouve que la WWE fait un peu trop souvent ça. Ils nous l'avaient fait avec le record de Nikki Bella en tant que Diva Championship pour battre le record de Jelly. Et le pay-per-view juste après ça, elle a perdu. Ils l'avaient fait aussi avec je ne sais plus qui une autre fois. Bref, c'est un peu trop systématique. À chaque fois, il y a un gros record qui est battu de longévité de règne. Et la défense qui suit le nouveau record, eh bien forcément, les gens perdent. Donc ça devient un peu trop prévisible. Moi, j'aurais peut-être fait garder encore les ceintures là sur ce pay-per-view là et les faire perdre après pour qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'un jour ils vont les perdre? Est-ce que c'est maintenant? Parce que là, c'était presque trop attendu en fait. Mais ça reste un côté cool parce qu'il fallait qu'il n'ait plus la ceinture rapidement. Mais voilà.
Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que c'est une histoire qui se répète, hein. On détruit le record et puis juste après on perd. Bah
C'est ça,
c'est ouais.
on a coché la case, check,
Voilà.
c'est bon, donc maintenant on peut passer à autre chose. Et je comprends parce qu'il y a plusieurs choses. Je pense que les deux, on arrivait quasiment à la fin, ils avaient hâte de renouveler un peu la dynamique des ceintures par équipe sur Raw. Après, il y a un calendrier à tenir, il y a le Rumble le mois prochain, il y a Mania dans pas si longtemps que ça, dans 3 mois. Donc il faut faire avancer une nouvelle storyline, il faut installer une nouvelle chose. Mais quelque part, pour brouiller un peu plus ses cartes, pour que ce soit un peu plus prévisible pour les gens qui suivent le catch, je pense que ça aurait été sympa.
Ouais, ça manque un peu de surprise tout ça. Mais
Ouais.
bon, voilà, maintenant on a Cesaro et Sheamus qui sont champions. C'était aussi le moment de ne pas te le faire tant qu'il est chaud parce qu'ils sont hyper populaires. D'ailleurs,
Ah ouais, clairement.
c'est le seul match où le public a réagi, où il était à fond dedans.
Oui,
Le
c'est le
reste de
premier en
SummerSlam, ils sont
plus.
endormis, hein.
C'est le premier, on part sur un good feeling parce que même si les New Day sont face globalement, ben, Sheamus et Cesaro le sont aussi quelque part. Comme tu dis, ils sont super hot en ce moment. Donc les gens étaient contents de le voir et de voir un changement de ceinture en plus. Donc forcément, c'est un good moment, hein. C'est un moment sympa. Et puis c'est pas mal, c'est aussi l'apprécier, dire à WWE, ok, vous avez réussi à prendre ces deux gars qui sont capables dans le ring pour différentes raisons, qui étaient un peu dans le fond du trou avant la draft. Et d'en faire quelque chose avec les Seven Series, le Best of Seven Series qu'ils ont fait pendant des semaines, d'être en tag team, ok, ça les rend intéressants aux yeux du public. Vous avez réussi à recréer une histoire avec eux, donc parfois on est toujours à critiquer quand la WWE et les scénaristes se plantent. Bon, voilà, bah, pour une fois là, pour le coup, ils ont plutôt bien mené leur barque, je trouve. Faut voir combien de temps ça va durer après, une fois qu'ils sont champions. J'espère qu'on va leur envoyer rapidement Gallows et Anderson et qu'on aura une feud bien sympa entre les quatre. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien, quoi. Les quatre dans le ring, ça peut donner bien. Le club Gallows et Anderson ont été super mal bookés depuis la séparation des rosters parce qu'ils ont été en opposition principalement avec le New Day ou avec Soft, donc Enzo et Cass, qui sont plutôt les deux des équipes comiques. Et le club Gallows et Anderson, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont pas là pour faire des blagues, ils sont là pour fracasser des gueules. Et je pense qu'une storyline, une rivalité assez violente, assez agressive entre le club et Sheamus et Cesaro, ça peut vraiment bien marcher, quoi.
Ça c'est urgent qu'on ait les bonnes grosses rivalités dans la division tag team parce qu'avec les New Day c'était quand même pas folichon, hein. Il y avait un peu
Ouais,
que ça tournait que autour du New Day et puis voilà c'était au suivant quoi, hein. On avait une
c'est
rivalité, ça se
ça.
terminait et puis on enchaîne sur
Ils
l'autre.
faisaient des spectacles, ils vendaient plein de merchandising, ils faisaient des blagues. Le comedy wrestling était assuré chaque semaine par le New Day. Donc là, c'est bien de repasser sur un truc un peu plus sur la compétition et aussi des gens qui veulent la ceinture ardemment et qui sont prêts à des matchs un peu intenses.
Si ça donne des matchs comme on a vu ce soir, ça risque d'être vraiment très cool. cool. Allez, la suite. La suite, c'est Sami Zayn, donc qui de haute lutte a réussi à décrocher donc son match face à Braun Strowman après des négociations sans fin avec Mick Foley. Bon, il a le droit à un match, mais il a le droit à 10 minutes. Hein. Faut qu'il tienne 10 minutes contre Braun Strowman. Et s'il tient 10 minutes, il a gagné. Alors.
Il pourra dire qu'il aura survécu contre Braun Strowman, donc
Voilà.
un autre catcheur pendant 10 minutes.
Ça va être une belle étoile à son palmarès.
Ouais.
Alors, bon, ben, le match démarre. Sami Zayn se fait défoncer. Et au bout de 5 minutes, il se passe plus rien. Strowman, il a laminé Zayn, mais il essaye pas trop de faire le tomber. Et à un moment donné, il tente d'en faire un, mais il relève tout de suite Zayn. Donc là, y a Mick Foley qui finit par débarquer avec une serviette blanche, hein, comme si on était un match de boxe.
Exactement, c'est-à-dire que dans quel univers,
pas.
dans quel show la WWE, vous avez jamais vu un mec débarquer à un moment donné avec une serviette blanche, acheter en disant OK, le match est terminé, et l'arbitre faisant signe comme quoi OK, ça veut dire que c'est le code, le match est terminé. J'ai jamais vu ça.
Écoutez, qu'est-ce que c'est que ce sport de barbare où les gens se tapent dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit dans les pommes, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc Foley, il y a Braun Strowman qui débarque, enfin qui va le voir, qui lui dit vas-y, jette la serviette blanche parce que sinon le sang de Sami Zayn sera sur tes mains. Sami Zayn se réveille quand même, il vient voir Foley, il lui dit non, tu jettes pas la serviette, j'ai encore envie de me battre. Il prend la serviette des mains, bon difficilement, hein, il s'y prend un deux fois et il la jette dans le public. Donc là, Strowman, il va tenter d'en finir avec Zayn, mais tout ça se passe à l'extérieur du ring. Hein, donc Zayn esquive une attaque de Strowman qui se mange le poteau. Après Braun Strowman, il va essayer encore de recommencer, mais cette fois Zayn esquive aussi et cette fois il se mange la barrière d'insécurité, hein, il détruit la Timekeeper Arena. Et ensuite, une fois dans le ring, il va encore essayer de défoncer Zayn, mais Zayn esquive encore une fois et là, Braun Strowman se mange le poteau. Et ensuite un hell of a kick. Et puis là, c'est la fin des 10 minutes. Hein, donc du coup, Sami Zayn, il a gagné. Voilà. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire de ce drôle de match et de cette drôle d'histoire là?
Alors, ce qu'on peut dire, oui, c'est que Strowman reste toujours en match individuel invaincu dans une stipulation classique, hein, puisque là, vous l'aurez bien compris, Zayn a gagné, mais parce qu'il a survécu entre guillemets 10 minutes dans le ring, mais il n'a pas fait le tomber ou fait abandonner Strowman. Donc Strowman reste toujours invaincu en individuel. C'était un peu le problème d'ailleurs quand ils ont commencé à feuder tous les deux, Zayn et Strowman, parce qu'on se disait, ok. Si Zayn perd la feud, le match contre la rivalité contre Strowman, il aura l'air faible et Zayn, il a plutôt un besoin de victoire par rapport à actuellement où il en est dans la carte et par rapport à son booking. Strowman, c'est pareil. Son invincibilité, on sait que Vince McMahon, il a de grands projets pour Braun Strowman parce que c'est un gros gars, donc comme bien Vince, c'est un gros bonhomme. Donc on se dit, ok, Strowman, il va aller loin. À un moment donné dans la carte, son invincibilité, elle va rester. Donc, on voit pas Zayn gagner contre Strowman de façon classique. Donc, en fait, on était dans une rivalité où les deux catcheurs impliqués, il fallait qu'ils gagnent. Ou il fallait pas qu'ils perdent, tout du moins. Donc, du coup, c'est pour ça, à mon avis, de mettre cette stipulation-là. Ça ne fait pas perdre Strowman de façon classique. Zayn a une sorte de semi-victoire. Donc c'est peut-être le choix qui endommage entre guillemets le moins les deux superstars. Donc voilà pour le choix de la stipulation et du
Ouais, ce
déroulé.
serait la
La
logique
conclusion.
derrière tout ça, quoi.
Bah moi c'est ce que je vois, hein, parce qu'après le match en lui-même n'était pas super intéressant. Il y avait ok c'était très clair quoi. Strowman est un monstre, donc il prend Zayn, il envoie la troupe du ring. Zayn le frappe, Strowman il bronche à peine, il lui met un coup, voilà. Zayn fait des séquences où pendant 30 secondes, il jump dans tous les sens partout pour mettre des coups, et Strowman il met un coup de poing et ça fait le même effet. Donc du coup, on se dit, ok, c'est peut-être qu'ils sont bookés l'un comme l'autre pour l'instant, il n'y avait aucun suspense dans le match. On savait très bien comment ça allait se
Voilà,
passer, ça s'est passé exactement comme ça.
c'était
La seule
cousu de
chose.
fil blanc, comme on dit.
C'est ça, la seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'était l'arrivée de Foley avec cette serviette blanche. D'ailleurs, petite pensée pour la personne du public qui a récupéré la serviette blanche. Je crois que cette personne a un item qui n'a pas de prix parce que ça doit être la seule serviette blanche d'un match de catch de l'histoire du catch.
Je crois, je
Donc
crois.
c'est unique, c'est un objet unique de catch, donc elle peut le revendre très cher sur eBay. Mais sinon, à part ce segment-là, le match était ouais, cousu de fil blanc comme tu dis, et voilà.
On n'a pas souvent hein, ce type de stipulation, mais en même temps, on
Non.
voit pourquoi, hein, parce que c'est un peu nul
Bah
en fait.
ouais.
Je me souviens d'un truc, mais c'était il y a très très longtemps. C'était Dustin Rhodes avant qu'il soit Goldust, hein,
Ah oui.
qui affrontait le Million Dollar Man. C'est pour vous dire. Sinon, un truc de serviette blanche. Je crois qu'il y avait Samoa Joe contre AJ Styles à la TNA, que, genre il y a une dizaine d'années peut-être, mais c'est tout quoi. Ça avait donné quelque chose de bien meilleur. Hein, si vous avez l'occasion de voir ça, Samoa Joe contre AJ Styles à la TNA, c'était quelque chose d'assez phénoménal.
Ah bah c'était la bonne époque de TNA où
C'est
il y
ça.
avait Samoa Joe, AJ Styles, Bobby Roode, Austin Aries. Attendez, en fait, ils sont tous à la WWE
Voilà, vous saurez où les trouver. Vous verrez peut-être des remakes de ces matchs. C'est ça, dans sous peu.
maintenant. S'ils les font monter, oui.
Ouais.
S'ils les font monter dans la carte, mais bon.
Ouais.
On verra
On
bien.
verra bien. Hein. 2017 est une nouvelle année. Alors, la suite des opérations. Seth Rollins qui affronte Chris Jericho dans un match de 17 minutes 05. Alors,
17 minutes 05.
et ouais,
Eh ben
figure-toi.
c'est marrant que ce soit 17 minutes parce que autre petite anecdote de streak ou de statistique sur ce
Ah
pay-per-view,
oui.
c'est que Seth Rollins sur les 17 justement 17 pay-per-view, dernier pay-per-view qu'il a fait en match simple, il a toujours été impliqué dans un match pour le titre mondial ou le titre universel. À chaque fois sur ses 17 dernières participations des pay-per-view, il était dans un match qui impliquait le titre mondial. Et là, c'est donc le moment où ça s'arrête, puisqu'il n'y avait pas de titre en jeu entre Rollins et Jericho ce soir. Donc, sacré stat pour Monsieur Seth Rollins, quand même. Ce qui montre vraiment son importance aujourd'hui dans l'écriture de la carte, dans le top card de la WWE. Hein,
C'est ça, c'est ça. Normal, théoriquement, ça devrait être le babyface de la compagnie. Théoriquement. Ben c'est un match assez classique. Donc c'est très disputé. Hein. Chris Jericho il se défend bien. Impressionnant quand même à son âge, hein, Chris Jericho, de sortir des matchs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, à la fin, on va directement aller à la fin parce qu'il y a c'est des déroulés classiques hein, de leur batterie de comment dire de coups de chacun de leur côté, hein. C'est
Ouais, il y a
appréciable,
juste.
mais il n'y a rien de phénoménal. Il y a une intervention de Kevin Owens, donc à la fin. Et ça fonctionne pas. Jericho perd sur un pedigree et il est furieux contre Kevin Owens. Sachant qu'ils ont essayé de se réconcilier un peu plus tôt. Enfin, du moins, Kevin Owens a encore essayé de se réconcilier avec Chris Jericho dans les coulisses. En lui rapportant un joli cadeau,
Bah oui.
une écharpe du plus bel effet, elle était rouge et verte,
Magnifique.
ou rose et verte avec des pompons.
Rouge, couleur de Noël, c'est une
C'est
écharpe de
ça, c'est
Noël.
ça. Et Chris Jericho l'a pas du tout apprécié, il lui a jeté à la tête. Il lui a dit ça va pas ou quoi, c'est vraiment dégueulasse. Donc pour l'instant, ils sont pas réconciliés. L'intervention de Kevin Owens, c'était encore une façon d'essayer de se faire pardonner, mais ça n'a pas fonctionné.
Passant par du moment où Chris Jericho, alors que tu lui offres une écharpe, jette une écharpe, c'est qu'il est vraiment en colère quand
En même
même.
temps, j'ai rarement vu une écharpe aussi dégueulasse. Hein.
Oui, mais je suis sûr qu'il y en a des aussi dégueulasses que ça, Jericho, dans son
C'est
élection.
pas faux. Voilà, donc bon, j'ai pas trop décrit le match, pardon, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de tout ça?
Non, c'est deux grosses stars qui savent faire un match ultra intéressant. Donc regardez-le, il y a plein de spots super bien. On est vers la fin, juste avant qu'Owens arrive, il y avait une espèce de ils se sont contrés mutuellement l'un l'autre pendant je sais plus combien de secondes d'affilée. C'était un moment vraiment sympa
Ils se rendent
jusqu'à ce
coup
que
pour
Jericho.
coup hein, dans le match, hein, c'est
C'est
ça.
ça, ah ouais, c'est jusqu'à ce que Jericho arrive à mettre donc Rollins dans un mur un wall de Jericho. Donc non, il y a vraiment des moments très sympas. Voilà. Quoi dire, pas grand-chose en fait, parce que j'ai plus parlé du côté storyline et écriture. Ce que nous dit Rollins, c'est que lui, ce qu'il veut maintenant depuis 2 semaines, c'est Triple H. Ok, il veut Triple H, toujours par rapport au fait que Triple H lui a planté un couteau dans le dos, entre guillemets, pour le titre universel, puisqu'il a mis un pedigree à Rollins pour donner ensuite le titre à Owens. Donc, ok, la storyline et le match Triple H, Seth Rollins, on l'aura certainement à Mania, soyons clairs. Et donc là, Rollins dit, je veux Triple H, c'est mon objectif, et Triple H ne passe que par deux choses. Un, Kevin Owens et titre universel. Et donc, si je veux battre Kevin Owens, alors j'irai pas, c'est qu'il y a toujours Jericho qui l'aide, donc il faut que je batte Jericho. Ok, sauf que ça marche pas en fait. Je veux dire, en quelle mesure gagner un match là aujourd'hui contre Chris Jericho à Roadblock Under the Line va faire que de toute façon ils sont brouillés, ils sont plus potes Jericho et Owens. Donc en fait il a même plus besoin, hein, tu vois, c'est limite à ce moment-là on se dit le match il a lieu parce qu'il a été booké, mais il y a plus vraiment de raison. Jericho il peut avoir envie de se venger parce que Rollins lui a mis un pedigree sur le toit d'une bagnole il y a deux semaines, mais pour Rollins il n'a plus aucun intérêt de battre Jericho. Donc du coup la storyline est un peu à ce niveau-là un peu bancale, je trouve.
Bah, je pense que tout ce qui tourne autour de cette Rollins c'est bancal en fait, hein. Son face turn c'était interminable. Là sa vendetta contre Chris Jericho elle veut rien dire. C'est un des gros problèmes de Monday Night Raw, c'est ce personnage de Seth Rollins qui devrait être le babyface, le gentil de la société, le héros number one, et puis finalement c'est juste un gars qui est là et qui cherche à, je sais pas, se venger de Triple H. Mais Triple H il est pas là, on n'a pas vu sa gueule depuis 6 mois, il reviendra après le Super Bowl, je pense.
Non, le face turn de Rollins, c'est pour l'instant un échec. Hein. Tout comme le face turn de Reigns. Hein.
Ouais.
Il a jamais marché, le face turn de Reigns. Le public n'a toujours pas réalisé qu'il était face. Quoi.
Ouais. C'est
pareil. Alors, le public a peu dit Rollins. Ce public voilà. Est quand même interagit avec cette Rollins comme si c'était un face. Mais c'est vrai que pour l'instant, ses motivations et ce qu'il fait, il n'a pas trouvé encore ses marques.
Du coup, il n'y a pas d'implication dans ses matchs. Du coup, par exemple, sur ce match-là, c'était un bon match, mais il n'y avait clairement pas d'enjeu. C'était assez prévisible. Et puis,
c'était un
coup d'épée dans l'eau, quoi.
Sauf que, voilà, comme tu dis, la seule chose positive qu'on voit, c'est un match de 17 minutes, Chris Jericho, encore en 2016. Il le tient, il fait des super trucs et qui solidifie, je pense, vraiment sa place pour être vraiment quelqu'un qui aura eu une année 2016 superbe.
Ouais, étonnant ce Chris Jericho. Et voilà, du coup, ça profite plus à Chris Jericho qu'à Carolines, cette victoire-là.
Ah, mais complètement. Complètement.
C'est dingue. Moi, je pense qu'ils auraient même dû donner la ceinture à Chris Jericho il y a un certain temps, ceinture universelle. Ou lui faire gagner le titre US, histoire de... Parce que c'est lui, de toute façon, qui fait le show à Monday Night Raw toutes les semaines. Donc,
voilà, universel, peut-être pas, on va se calmer, peut-être que ça, on va le garder pour un peu plus tard. parce que voilà, c'est peut-être ce qui va attendre que Jericho plus tard, on ne sait pas, on discutera. Mais par contre, la ceinture US, c'est clair, hein, t'en avais parlé avec Hank dans le podcast. Surtout vu que Reigns la défend pas, il fallait donner à Chris Jericho, c'est évident. Mais bref, encore reparler parce qu'on pourrait s'en passer pendant un quart d'heure.
Ce serait trop long.
Voilà, Jericho, encore une grosse soirée pour lui et qui continue parce qu'il nous fait vraiment plaisir à performer encore comme ça en 2016. C'est Jericho.
Ça. C'est ça. Pièce maîtresse de la WWE. Enchaînons avec nos amis les Cruiserweights. Donc la ceinture.
Ah, attends. Il faut qu'on change tout la décoration du fil d'enregistrement en mauve. Il faut tout mettre en mauve.
Mettons les cordes en mauve. Voilà. Si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. Alors, Rich Swann, donc le champion cruiserweight, hein, parce qu'il a gagné il y a pas si longtemps, affronte TJ Perkins et Brian Kendrick dans un triple threat. Ça commence assez rapidement, hein, on est content, ça va être un beau match de cruiser.
Excuse-moi, ils s'affrontent dans une triple frite.
Oui, une triple frite, oui.
D'accord.
Il y a des triples potatoes et il y a des triples frites. Alors, okay. C'est au choix.
Donc c'est un triple frite.
Voilà, pour un triple frite pour nos auditeurs. Ça commence assez vite, comme je le disais, avec ça bouge bien dans le ring, hein, ça fait des dropkicks, des choses comme ça. Et puis il y a un botch, Rich Swann, il met un violent coup de genou à Brian Kendrick dans sa face là sur une tentative d'esquive. Hein, il est censé passer au-dessus de Brian Kendrick, Mais je sais pas, Brian Kendrick, il se baisse pas, il se mange le genou. Et à partir
Ah,
de.
c'était vilain.
Ouais, c'était vilain, c'était moche à voir. On voyait que Rich Swann n'était pas content parce qu'il voyait que c'était pas sa faute. Donc il a pas été trop vérifié si ça se passait bien. Voilà, à partir de là, il y avait plus d'alchimie entre eux, hein, il y avait plus de timing. Le match était assez nul. Ça se termine sur un double super kick. C'est-à-dire que Rich Swann et TJ Perkins font un double. Chacun un super kick dans la face de Brian Kendrick. C'était quand même remis, hein, il n'était pas très blessé. Une fois qu'ils ont atomisé Kendrick, Rich Swann se retourne contre Perkins, il lui place un coup de pied circulaire. TJ Perkins est sonné, et c'est le compte de 3. Donc Rich Swann conserve son titre donc en 6 minutes. La foule s'est complètement endormie, hein, c'est silence complet.
Ah, c'était affolant, comme je le disais
Ouf.
sur le chat de la rédaction.
Fâche.
Regardez les 3-4 premiers rangs du public quand il y a un plan du ring. Parfois, on voit qu'ils sont face à la caméra. Et là, ils avaient l'air, mais trois quarts des gens à l'écran avaient l'air de faire autre chose, de regarder leur portable, de, je sais pas, regarder le
C'est
plafond de
ça.
l'arène. C'était affolant.
Indifférence générale. Donc, Rich Swann gagne, mais on entend retentir la musique de quelqu'un qu'on avait complètement perdu de vue.
Oui, on ne savait même plus s'il était dans le
J'étais en
coin ou en
haut,
haut.
où est-ce qu'il était? C'est Neville. Neville qui débarque. Alors on nous explique qu'il a une vieille amitié avec Rich Swann, qui vient sûrement pour féliciter le champion. Mais pas du tout, il débarque et il attaque directement Rich Swann, coup de coude dans la face, et après il le démolit à coup de pied hyper rapide, là, des enchaînements de coups de pied comme il sait si bien le faire. Il s'occupe aussi de Perkins, il le défonce. Il n'est pas content, il fait la gueule. On a bien compris que ce sera désormais lui le patron de la division Cruiserweight et qu'il en veut au titre. Qu'est-ce que tu penses de ce heel turn, comme on dit, de Neville?
Adrian Neville, l'homme que la gravité a oublié. Alors déjà, c'est content, je suis content de le revoir parce qu'il était pas, il était parti pour blessure. C'est toujours bien de voir des lutteurs, des catcheurs et catcheuses qui ont été blessés qui reviennent en pleine forme. Donc ça, c'est cool. Donc il débarque. Donc on nous explique effectivement qu'apparemment il a entraîné Rich Swann. Adrian Neville a réellement entraîné Rich Swann à un moment donné dans leur carrière respective. Donc il y a un peu une relation a priori de mentor-élève. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu finalement à TJ Perkins et Brian Kendrick, hein, puisque
Ouais,
ce qu'on nous disait au
pas
début
trop
de
dans
Project.
l'originalité là, hein, sur les. Si à
Non.
chaque fois ça va être ça, on était copains dans l'indie, j'étais ton mentor et tu t'es
Ouais.
retourné contre moi, ça va être vite lassant, hein, mais bon.
Ouais. Carrément. Sauf que là, ce qui change, c'est que autant TJ Perkins, pas TJ Perkins, mais Kendrick, pardon. Van Kendrick, lui, il est plus dans la ruse. J'essaie de filouter, de t'entourlouper, de te mentir pour essayer d'avoir la ceinture et gagner. Vraiment de la triche. Là, Neville, dans son attitude, était vraiment genre dominant, écrasant, super efficace, super affûté, des coups de pied très, très stiff.
Très
Donc, je
stiff.
pense que. Ouais.
Très stiff.
Stiff, ah, stiff, pardon. Très stiff, tu vois, comme quoi. C'était une autre attitude, donc je pense que le positionnement, l'attitude de Hill va être différente entre Kendrick et Neville, et il faut. Mais dans tous les cas, c'est bien parce qu'au moins, ça va l'enlever de la carte d'un middle card et l'upper card, donc du main roster, où il était perdu, quoi. Neville, avant, il était à Superstar, il était à Main Event. On lui donnait des matchs de 2 minutes 50, et il n'avait pas le temps de montrer quoi que ce soit. Donc du coup, c'est un mec qui a un talent in-ring athlétique qui est phénoménal. J'ai revu récemment un DVD de la NXT, une compil des meilleurs matchs à NXT. Il y avait notamment des matchs avec Sami Zayn, avec Cesaro et avec Neville. Et ces trois gars, quand on leur donne un quart d'heure, ils font des matchs qui sont des tueries. Ils sont des tueries.
Il y
Donc
avait
s'il
un
y avait...
énorme potentiel, hein,
Ah
chez
ouais.
Neville, hein.
Ah, complètement. Donc si on n'est pas prêt à lui donner la place qu'il lui faut pour qu'il s'éclate et qu'il donne quelque chose de grandiose comme il peut donner dans le main roster, entre guillemets, eh bien ok, pourquoi pas, mettons-le dans la division Cruiser qui pourra peut-être bénéficier d'avoir un nom, entre guillemets, connu, du moins plus connu par le public à WWE que les gens de Cruiserweight, parce que ça a peut-être rapporté un peu de hype, entre guillemets.
Ouais. Un peu de star power, un peu de crédibilité, parce qu'il était tout de suite, il en imposait deux fois plus que les autres. Hein. Même s'il rentre dans la catégorie de poids, il était clairement plus impressionnant que les trois autres. Parce qu'il faisait vraiment malgré sa petite taille, c'était le monstre dominateur du truc. J'espère qu'il va rapidement gagner la ceinture et puis s'imposer comme le patron, quoi. Parce que là, au moins, ça va redonner du crédit à cette division-là qui est complètement perdition, hein, depuis.
C'est ça. Et pour moi, le Neville dans le main roster, c'est la preuve que si jamais un Cruiserweight pouvait marcher dans le main roster, bah, ça aurait été Neville, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs. Il lui manque peut-être un truc au micro, mais il est physiquement impressionnant, il est costaud, il est musclé et il est méga agile. Hein.
C'est ça.
Moi, j'ai une amie qui est absolument pas fan de catch. De temps en temps, on était en coloc ensemble, je regardais des matchs de catch et une des seules fois je me souviens qu'elle ait fait un compliment, qu'elle était intriguée par quelque chose, c'est quand elle a vu Neville en ring. C'est au moment où il a débarqué à Raw, après son transfert à NXT. Et donc ils ont donné un peu de temps d'antenne pour qu'on voit ce qu'il savait faire, et ça séduit les gens qui sont pas forcément des gros spectateurs de catch, quoi. Donc Neville, très content pour lui si jamais ça lui permet d'avoir des matchs intéressants, du temps et pouvoir un peu se développer.
Il avait eu un gros match contre Seth Rollins aussi.
Ouais.
Voilà, donc la foule était content et il chantait Thank you Neville. C'est le moment où ils sont révélés. Et ce que j'avais pas annoncé aussi, c'est qu'il y avait Austin Harris qui était aux commentaires, comme à 205 Live, hein, qui n'est pas un spin-off de Top Gear, mais via l'émission des Cruiserweight qu'on a sur le network. On aura peut-être Austin Harris. Enfin, je crois que c'est certifié qu'il va intégrer aussi la division Cruiserweight. Donc voilà, un peu de star power dans cette division, c'est très bien. On espère que ça continuera comme ça.
Ah bah largement, parce qu'en plus Austin Harris, c'est un peu un des problèmes de gens à NXT qui serait bien de faire monter dans un main roster, parce que ils ont pas besoin d'être développés. C'est des gens qui ont une carrière dans notre fédération qui est déjà super accomplie.
C'est une bête au micro, Harris.
Voilà, Harris est très à l'aise du micro, et surtout il est plus tout jeune, donc c'est des gens, c'est moi, Joe et d'autres, faut pas qu'il reste à NXT pendant encore des années.
C'est ça.
Donc le problème, c'est si tu le montes dans le roster Raw SmackDown, ça va être de plus en plus compliqué pour tout le monde et un peu de temps pour des storylines. Donc pourquoi pas tenter de mettre des noms de star power, comme tu dis, chez les cruiserweight pour voir si la sauce prend.
Exactement. Allez, on enchaîne sur la suite. C'est les filles. Charlotte Flair qui affronte la championne Sasha Banks dans un Iron Man match de 30 minutes. Donc c'est celle qui fait le plus de tombées qui gagne. Alors le premier tombé, il arrive au bout de quasiment 20 minutes. Hein. Tout le reste du match, ça se fout sur la gueule méchamment, comme elles savent si bien le faire. Il y a notamment un spot assez impressionnant où Charlotte fait un croche-pied à Sasha qui est sur le tablier du ring, qui est en train de monter sur la troisième corde, et elle tombe et elle se mange l'escalier mais méchamment.
Oui, ça rappelle un peu le spot de la dernière fois où elle s'était mangé le rebord du ring, pareil, avec un spot qui était très impressionnant dans leur dernier match quand Banks a regagné le titre. Donc elle commence, je pense, à bien maîtriser la prise de « je donne l'impression à tout le monde de me ramasser quelque chose en plein milieu de la gueule ». Et à chaque fois, on a peur pour elle, et ça marche bien.
Elle a vraiment joué le selling à fond, hein, Sasha. Elle perd le premier tombé après un natural selection de Charlotte depuis la troisième corde. Tant qu'à faire. Donc on est à 1-0 hein, pour Charlotte. Juste après, Charlotte elle perd sur un espèce de roll-up, par contre qui est complètement botché là par Sasha. Mais bon, donc un point pour Sasha. Ensuite, Charlotte va devoir abandonner sur un bank statement. Là, Charlotte, après coup, elle va continuer à travailler méchamment sur la jambe de Sasha, vraiment des prises violentes, des coups de pied dans le genou, la tordre la jambe dans tous les sens là, parce qu'elle est très souple Sasha, donc elle peut lui tordre la jambe dans les conditions scandaleuses. Finalement, elle a réussi à lui porter la prise en 4 qui se transforme en prise en 8. Ça dure au moins 2 ou 3 minutes.
Ouais, 2 minutes,
Deux
hein.
minutes, Sacha, elle résiste tant qu'elle peut, mais elle finit par abandonner à quasiment 3 secondes de la fin. Une fois que Charlotte a fait le ponté là, sur sa prise en 8. Donc du coup on se retrouve à 2 partout. Les 30 minutes sont finies, sont épuisées. Donc l'arbitre décide de continuer le match sous forme de mort subite. Et juste avant qu'il ressonne la cloche, Charlotte va placer un méchant kick encore une fois dans le genou de Sacha qui peut plus marcher, hein, elle clopine. Et donc bah, elle va continuer à lui travailler le genou jusqu'à la replacer dans la prise en 4. Sacha bah, sera obligé d'abandonner à nouveau.
Ouais,
Et
c'est une prise en 8, ouais.
prise en 8, ouais. La figure 8. Et donc victoire de Charlotte, toujours invaincue. En pay-per-view, à nouveau championne. Qu'est-ce que tu as pensé de ce championnat, mon bon amiral?
Bah, je dirais même plus que ça, superbe rivalité entre Sacha Banks et Charlotte Flair, qui a priori, superbe finale en fait, ce match-là est annoncé comme étant le match final. Il n'y a pas de clause de rematch dans le contrat entre guillemets qui gère ce match-là, ce qui veut dire que qui que ce soit gagne ne devrait plus défendre le titre contre l'adversaire, ce même adversaire-là, pour au moins la fois suivante. Donc on se doute très bien que soit qui gagne, elles se reverront dans un ring, certainement pour un titre. Mais en tout cas, c'est ce qui devrait clore cette première rivalité dans le main roster entre Banks et Charlotte. Et c'était super. C'était très très bon. Quoi. Un match qui a duré 35 minutes quasiment, puisqu'il y a eu les 30 minutes initiales, plus presque 5 minutes de temps supplémentaire. Les deux, bon ben voilà, elles livrent des matchs de toute façon depuis quelques pay-per-view qui sont vraiment très bons techniquement et dans le selling et dans le jeu de l'une de l'autre. Je trouve bien qu'ils soient arrivés à cette égalité de deux, puisque du coup, aucune des deux ne paraît faible. Les deux sont de force quasiment équivalente. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on en fait gagner une et on va clore la rivalité. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui en ressorte de là affaiblie, parce que la gagnante va forcément ressortir de là très forte. Donc il faut que la perdante sorte aussi comme étant très forte également. Donc c'était le bon choix de les faire faire un égalité à 2 à 2. Et après voilà, Charlotte qui gagne, moi je trouve que c'est mérité, parce que Charlotte, elle survole vraiment la division depuis tout 2016, impressionnant. Elle a fait beaucoup plus de progrès, je trouve, au micro que Sacha Banks. Donc, au final, je trouve que Charlotte a plus de mérite sur la globalité de la rivalité. Donc, c'est bien d'affaire à gagner. Surtout que ça, il y a une image forte, quoi. À la fin, donc, la figure 8, il y a Sacha Banks qui a le nez et la bouche qui saignent un peu.
Ouais, c'est vrai que
Et donc,
c'est exposé le
ouais,
nez
donc,
sur la fin.
c'est très graphique, bah forcément, à force de se jeter la tête sur les escaliers et autres, il faut bien que ça arrive.
C'est
Hein.
ça.
Donc elle a du sang sur la bouche et la face, alors qu'elle est prise dans la prise en 8 donc de Charlotte. Elle résiste pendant un temps fou avant d'abandonner. Enfin, l'image est belle, quoi. On voit la face qui est blessée, qui n'en peut plus, qui est obligée d'abandonner face à la heel qui retrouve sa ceinture. C'est génial. Et puis ça permet aussi de faire continuer, comme tu disais, la streak, hein, la streak en pay-per-view de Charlotte, qui, mine de rien, elle a fait 14 matchs en individuel en pay-per-view depuis son arrivée au main roster, hein, 14 matchs. Elle a 14 victoires en pay-per-view, en match simple.
Impressionnant.
Et à chaque, et à tout sauf un, c'était avec un titre en jeu, quoi. Donc.
Ouais, puis c'est logique qu'il continue à capitaliser sur elle parce que c'est quand même la meilleure au micro, hein, comme tu disais. Sacha, effectivement, elle est impressionnante dans le ring, mais c'est toujours très léger. Et puis, s'ils veulent continuer à construire enfin, même c'est construit maintenant, hein, la division féminine, mais s'ils veulent continuer à en faire des main events à Monday Nitro, il faut continuer avec Charlotte parce que c'est elle qui va faire les segments les plus impressionnants.
Complètement. Niveau capacité en ring, je pense qu'elles sont assez équivalentes. C'est compliqué de les départager parce qu'elles sont dans la même catégorie, c'est clair. Au micro, Charlotte, elle explose Sasha Banks. Et en plus, Charlotte, elle a Ric Flair. Elle a le nom qui va avec, l'implication avec le père, c'est du star power, c'est de la storyline. Donc forcément, c'est ça qu'il faut. Et puis quand on regarde le reste de la division féminine actuellement à Raw, pour mettre ensuite dans une rivalité crédible, notamment avec Mania qui est dans 3 mois, hein, l'une des deux, bah il y a qu'une possibilité. C'est il faut il y a que Bayley dans actuellement dans le roster actif qui peut être en rivalité intéressante envers l'une des deux. Et comme on le sait, la WWE met pas des face contre des face, bah forcément c'est une si Bayley reste face, forcément que ce soit contre une heel, donc Charlotte.
Voilà.
Donc c'était le meilleur choix dans tous les considérations possibles.
C'est ça,
je trouve.
C'est ça, exactement. Et donc encore un grand match des filles, hein, décidément.
Ouais.
Voilà, ça c'était un des grands moments du show, même si évidemment le public dormait complètement, mais ça c'est pas, il n'y avait rien à faire avec ce public de toute façon. Allez, on va passer au main event. Donc le champion de l'univers, Kevin Owens, qui affronte Roman Reigns, l'imbattable Roman Reigns, le champion US.
Ah oui, c'est vrai.
Mais oui, souvenez-vous, c'est ça le truc qu'il a dans le dos là, qui se trimballe. C'est pas un sac, c'est pas un sac banane, hein. C'est la ceinture US.
Il la met comme moi quand je vais à la piscine, je mets ma serviette quoi sur l'épaule.
C'est
quoi.
Ça.
C'est la même chose.
C'est ça.
Pour dire le respect qu'il a pour les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il se fait huer. Il comprend pas.
Mais
voilà.
Oui, faut la tenir un peu mieux que ça. Mais donc voilà, comme d'habitude, hué à son arrivée, hein, Roman Reigns hué pendant tout le match. Alors avant le match encore, on avait eu un petit segment au cours du show où Kevin Owens était devant une porte fermée, il discutait avec normalement Chris Jericho, hein, qui était derrière la porte.
Oui, c'est la loge de Jericho.
La loge de Jericho, voilà. Mais il parle tout seul et il n'y a personne qui lui répond, donc il ne sait pas encore s'il est encore une fois copain avec Chris Jericho, s'ils sont réconciliés ou pas. Hein. Apparemment, ça fonctionne
et
toujours
pas. Il demande
pas.
À Jericho de l'excuser, de pardonner. Voilà. Il dit même à Jericho que Jericho peut mettre son nom à lui, Kevin Owens, sur la liste parce qu'il n'a pas été un bon ami.
C'est ça. Tu peux me mettre en haut de la liste si tu veux, si ça te fait plaisir.
Je suis prêt à ça pour qu'on reçoive pote. Okay. Et puis à la fin. Pas de réponse,
voilà, la porte reste close, on n'entendra pas Chris Jericho.
Et il dit, ça blesse mes sentiments, mec, ça les blesse vraiment très fort, et il s'en va. Et à ce moment-là, on a de la peine. Moi, j'ai eu de la peine pour
Kevin Owens, son petit cœur brisé. C'est difficilement supportable. Donc, le match dure 24 minutes 50. C'est toujours très très violent, hein, ces affrontements Kevin Owens Roman Reigns. Donc ça se rend coup pour coup, hein, voilà, on a des gros spots avec notamment une espèce de saut où il fait une descente de la cuisse après un salto là, Kevin Owens. Il y a aussi une séquence assez longue de headlock. Et puis à la fin ça sent
headlock master,
voilà, toujours. Toujours dans le trash talk, hein, Kevin Owens.
Il a pas arrêté,
ouais,
il était en feu.
Il était en feu.
Moi j'adore quand il fait ça, donc il avait laissé un peu de côté pendant un petit moment. J'ai l'impression qu'il repasse à l'équipe supérieure et c'est assez agréable.
Ça c'est sympa.
D'ailleurs, à un moment donné, justement, je crois que c'est pendant qu'il a le chin lock sur Reigns, et Owens qui dit assez fort, à tel point qu'on l'entend assez clairement. Ouais, si t'es un gros dur comme tu dis, Reigns, pourquoi t'as pas mis ton titre en jeu ce soir, hein?
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il lui dit ça. Ouais.
Oui, parce que t'as pas les balls de le faire. Et encore une fois, comme on le dit de temps en temps, Owens fait la voix du spectateur de catch.
C'est ça.
Non, mais oui.
C'est ça.
Pourquoi Reigns défend pas sa ceinture,
et
bordel?
Et oui, il aurait pu la mettre en jeu. Et à la fin, ça s'emballe. On va à l'extérieur du ring. Roman Reigns se fait installer sur la table des commentateurs, hein, parce que Kevin Owens commence à en avoir marre. Et là.
Ouais, avant ça, en plus, Owens lui met deux super kicks dans la poire à Reigns.
Voilà. Bon, de toute façon, il peut lui mettre ce qu'il veut. C'est toujours un tombé de deux, hein, parce que Roman Reigns il se relève de tout. Donc, sur la table des commentateurs. Kevin Owens monte sur la barricade et c'est parti pour un frog splash. Mais la table ne casse pas. Donc Kevin Owens, il se démonte pas, il retourne sur la barricade et il refait une deuxième. Deuxième frog splash, cette fois la table se brise. On ramène Roman Reigns dans le ring et on lui place une troisième frog splash. Donc là on se dit que c'est bon, mais c'est pas bon, hein. Roman Reigns il survit quand même.
Pour rappel, à ce moment-là, il s'est pris deux super kicks, deux, un frog splash sur la table, un frog splash à travers la table et un frog splash sur le ring. Et Roman Reigns, il est toujours
voilà.
là.
Et des frog splash de Kevin Owens, quoi. Donc c'est.
Voilà, c'est des boules frog splash. Quoi.
C'est, voilà, il s'est mangé des cannonballs, il s'est mangé tout ce que vous voulez, mais il se laisse pas vaincre.
Cette never die attitude,
c'est ça,
comme dirait
c'est
Cole.
Il est increvable, mec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Chris Jericho débarque. Voilà, alors il monte sur le ring. Ah, il hésite, qu'est-ce qu'il fait? Quelques secondes d'hésitation, et là il porte un codebreaker, mais pas sur Roman Reigns, sur Kevin Owens. Et sous les yeux de l'arbitre, donc l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il disqualifie Roman Reigns.
Et
Et
ouais.
voilà, et du coup, victoire de Kevin Owens. Donc Kevin Owens, bon, il est quand même sonné, hein, parce qu'il s'est mangé un codebreaker. Lui, il est pas en acier trempé comme Roman Reigns, donc ça lui fait mal.
Ah non, non, c'est clair. Il avait la même gueule à ce moment-là que lorsque Triple H était arrivé, voilà. Et avait fait un pedigree sur Seth Rollins, il avait donné la ceinture. Il avait le même look d'étonnement sur la gueule. Attends, tu m'as mis un codebreaker et j'ai gagné, mais c'est pour ça que tu l'as fait ou pas. Bref, voilà. Il joue bien, le mec. Étonnant.
Et donc finalement, ils se finissent par se prendre les bras l'un de l'autre. Visiblement, ils sont réconciliés. Hein, c'est un peu la réconciliation à la dure.
Oui, parce que les vrais amis, on se fâche pas avec des vrais amis, je veux dire.
On peut s'embrouiller, mais on se réconcilie. Enfin, combien de fois on s'est engueulé tous les deux et puis on s'est toujours réconcilié après. Hein.
C'est ça, voilà. Voilà. Ouais. Et là, le show à ce moment-là serait terminé là, ça aurait été super.
C'est ça.
On aurait fini avec une bonne note, positive, une bonne moralité. Amis pour la vie, l'amitié, c'est plus important que
voilà.
Tout.
Mais non. Qui débarque? Seth Rollins, le babyface. Qui vient et qui attaque la team Jericho. Roman Reigns lui se relève parce que ça va mieux. Hein. Et il défonce Chris Jericho. Kevin Owens s'enfuit lentement. Et là, c'est le retour des vieilles habitudes du Shield. La power bomb, la super power bomb à travers la table des commentateurs. Jericho détruit. On va ensuite chercher Kevin Owens, on le rattrape avant qu'il réussisse à s'enfuir. On l'amène sur la table des commentateurs américains, hein, celle qui est près de la Gorilla Position. Et là, on fait passer Kevin Owens une nouvelle fois à travers une super power bomb à travers la table. Il va s'écraser en contrebas, hein, près des spectateurs. Et on termine sur cette image des deux tiers du Shield, de la Roman Reigns et Seth Rollins. Qui cherche les acclamations du public mais qui ne reçoivent que des huées. Une drôle de fin pour ce pay-per-view.
Une fin complètement naze.
Voilà, de babyface qui agissent comme des psychopathes. Voilà, tout à fait l'effet inverse de ce qui était escompté, je pense. Voilà, donc ton avis, je pense qu'on a bien compris, ça t'a pas vraiment plu alors, tout ça.
Non, après, le match était bien, comme tu l'as dit, assez violent, même si je suis, comme certains de notre rédaction, salut Hank, notamment, et toi aussi, assez énervé par le booking de Roman Reigns. Je ne déteste pas Roman Reigns en tant que lutteur, en tant que catcheur et performeur. Je trouve que voilà, quand il a des matchs avec des adversaires qui savent gérer un match, et ben Roman Reigns donne des bons résultats, quoi. Enfin, il fonctionne bien, il est un peu trop répétitif, je trouve, dans ses prises, notamment dans cette espèce de claque de baffe qu'il met. Ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai l'impression qu'il la met tous les trois coups, c'est une claque dans la tête.
Ouais.
Donc un peu limité encore dans son moveset, hein, et dans sa capacité au micro, mais c'est surtout la façon dont il est booké qui m'exaspère. Donc, mais le match en lui-même, ça allait, c'était nickel. Mais oui, effectivement, la fin, dans quel univers, là encore, je pense que c'est le même mec qui a écrit l'histoire de la serviette blanche, du match de Zayn et de Braun Strowman, qui s'est dit, ah ben tiens, oui, pour faire que les deux babyface, donc Roman Reigns et Seth Rollins, soient acclamés par le public et que tout le monde rentre content chez lui après le show, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire démolir un après l'autre méthodiquement. Les mecs, donc Jericho et Kevin Owens, qui sont peut-être, malgré tout, surtout Jericho, peut-être plus appréciés que Roman Reigns, ça c'est sûr. Les deux sont plus appréciés par le public que Roman Reigns, et peut-être même Jericho plus apprécié que Seth Rollins.
C'est ça.
Donc au final, c'est complètement improductif. Ça fait deux mecs qui sont deux faces pas vraiment dans les popularités du public qui démolissent notamment un mec qui est super over, j'irais quoi. Donc ça ne peut pas marcher.
On sait que ils aiment bien, la WWE rebondit souvent hein, quand ils ont fait une erreur, mais alors là, sur Roman Reigns, ils persévèrent. Sur Rollins, ils continuent à faire n'importe quoi. Et là, ça se paye hein, directement sur ce pay-per-view-là. On est complètement à côté de les faire chercher.
Ouais.
C'est voilà, quand j'ai vu la fin, je me suis dit ils ont intérêt à sauver ça au montage quand ils vont remontrer les images à Monday Nitro, parce que vu comme ça, c'est soit c'est un heel turn de Rollins et Reigns qui redeviennent, je sais pas, le Shield là et qui décident de casser la gueule à tout le monde dans les shows, mais comme ça c'est pas du tout des actions de babyface. Et puis le public était clairement contre ce qui était présenté.
Oui, mais ça marche pas, parce qu'en plus, ils ont aussi tellement à dépeindre une amitié entre Owens et Jericho. C'est pas un partenariat, c'est une amitié. Même si Kevin Owens, il triche, il trash-talk tout le monde, on peut se dire clairement qu'il est du côté heel de la force, hein, sans conteste. Mais vu que Jericho est super top et presque face, aux yeux du public du moins, et que les deux ont une amitié qui est presque attachante, eh ben, tu mets face à ça deux faces qui sont franchement bancales, qui commencent à péter un plomb parce qu'il y a eu une triche lors d'un match et à défoncer des gars en les faisant passer par des tables qui rappellent le Shield, qui ont été surtout connus pour être des gros heels qui démontaient tout le monde sans aucune raison, ou alors pour le compte de l'autorité, bah non, forcément que ça peut pas
Ouais.
marcher.
Tu peux battre Chris Jericho, mais tu peux pas le, comment dire, le torturer. Sinon les gens ils sont pas contents. Il a un peu le statut que Ric Flair avait à une époque où d'accord, c'était le pire enfoiré de tous, hein, le pire traître, mais c'était le mec le plus populaire du truc. Et
Et
si tu
ouais,
l'enlevais,
exactement.
ça fonctionne pas. Et si tu l'humilies, bah ça marche pas non plus. Les gens se retournent contre toi, quoi.
Ouais, t'as raison, parce qu'il est super drôle, Jericho. Il est super drôle, il est super divertissant. Donc forcément, les gens l'aiment
C'est
bien.
ça,
Les gens
c'est
l'aiment bien.
ça.
Même s'il aide Kevin Owens à tricher, bah, les gens aiment bien Kevin Jericho. Et donc, par extension, ils aiment bien aussi Kevin Owens, ou du moins l'association qu'il a avec
C'est
Jericho.
ça.
Donc là, c'était complètement foiré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis, ok, dans quelle mesure ils n'auraient pas mieux foulé de mettre le match des filles en main
Encore une
event.
fois, ouais, ça c'est
Ouais,
c'est
on l'annonce le dernier de la rivalité Banks contre Charlotte. Bon, bah, ok, c'est en main
Ça
event,
méritait,
quoi.
ça coûtait rien. En plus, le pay-per-view, il a pas de renommée. C'était même le pay-per-view de trop, hein, j'ai envie de dire, de l'année. Mais c'est sûr que ça aurait eu plus de gueule. Seth Rollins, donc effectivement, 17 pay-per-view, 17 championnats. Mais je crois que ça restera quand même comme le babyface qui a laissé sa place aux filles, en fait, hein, dans le main event. Et ça, c'est pas. Voilà, c'est pas banal. Ça
Mais oui,
traduit
c'est
bien
ça,
quelque chose.
c'est un homme moderne, il est pour l'égalité
C'est
homme-femme, c'est
ça,
tout.
c'est
C'est
ça.
un féministe, c'est un féministe, c'est pour ça. Mais il a raison. Non, mais de toute façon, elle l'emprise, parce que niveau des capacités du ring, elles ont démontré des choses qui méritaient d'être en main event. Et surtout, bah, le niveau de l'écriture qu'il y avait derrière et la façon d'incarner. Bah, ce qui a été proposé était intéressant, et moins d'aller-retour que la top card masculine. On a plus l'impression que les Booker et Vince sont un peu emmerdés. Ils ont ces quatre stars qui sont identifiées, donc Rollins, Reigns, Jericho, Kevin Owens, mais ils savent pas trop quoi bien en faire, puisqu'il a fallu réagir avec Balor, qui s'était
C'est
blessé.
ça.
Hop, on fait ça comme ça. Ok, on sait dans le viseur qu'à WrestleMania 33, on aura Seth Rollins contre Triple H. Roman Reigns, j'ai aucune idée d'où il sera à WrestleMania 33. Jericho, Kevin Owens, peut-être qu'ils ont, si à un moment donné la rivalité, l'amitié, pardon, doit exploser vraiment en rivalité, bah, il faut que ce soit à WrestleMania parce que ça peut être un super chouette moment. Voilà, mais je pense qu'actuellement ils savent pas trop bien quoi en faire depuis un mois et demi de ces quatre-là, et ils les interchangent, ils essaient des trucs.
Voilà. Voilà, ce sera un peu le problème de cette année là qui vient de s'écouler. On va passer au mot de la fin. Ton top, ton flop, ta note. Dis-nous tout.
Eh bien, le top, ça aurait été la conclusion, le finish hein, de cette rivalité entre Sasha Banks et Charlotte Flair. Bravo, bravo mesdames et les
chapeau
ceux qui ont aidé à écrire les promos, les matchs, et mettre ça. Enfin, c'est vraiment super. On aimerait voir ça plus souvent et quand ça arrive, faut le souligner. Donc vraiment, ça reste un top de ce pay-per-view, peut-être même un top de plus large que ça sur l'année qui vient de s'écouler. Mmh. Le flop, bah on a dit hein, le finish du pay-per-view, qui dommage, qui aurait pu finir de façon plus intéressante. Voilà, moi je ne suis pas pour. Et puis la note, et ben du coup un 3,5 parce que c'est pas. Il y avait des trucs qui étaient pas mal indépendamment, le tag team match, le women championship match, tout ça c'était très bien. Le match finish aussi était honnête, même si la façon de conclure le show était pas terrible, donc un petit 3,5. Ouais.
Ok. Alors moi de mon côté, ce que je mettrais en flop, c'est Sami Zayn contre Braun Strowman. Ça j'ai trouvé que c'est nul de bout en bout, même toute la rivalité depuis le début, je trouve que c'est assez incohérent, ça me... j'ai vraiment pas accroché, et puis c'était vraiment mal goupillé hein, pour ce pay-per-view. Mon top, moi je vais mettre le championnat tag team, j'ai vraiment adoré le match, j'ai adoré la conclusion, j'ai adoré la performance de Cesaro, Sheamus c'était très solide, le New Day était parfait, le booking du match était excellent. Et puis pour la note, je vais mettre un 3. J'en ai un peu plus sévère que toi, mais voilà, c'était un petit peu le pay-per-view de trop. Bon, ça reste quand même regardable. Il y a eu des grands moments quand même avec les filles, et puis ce championnat tag team là. Et puis les matchs, c'était pas, il n'y avait pas de purge, hormis Zen. Zayn Strowman, mais c'est une tentative de faire quelque chose peut-être d'un peu original, mais pour le coup c'était mal foutu.
Ouais, mais c'est ça, il y avait des matchs sympas, et il restera la perte donc du record tag team du New Day et le finish entre Charlotte et Sasha, donc c'est peut-être pour ça qu'on se rappellera de ce roadblock end of the line dans quelques années, mais sinon, pas pour le reste.
Petit point historique dans tout ça. Voilà, alors c'est l'heure de l'autopromotion, hein. Je vous rappelle qu'on peut nous écouter sur iTunes, sur Podcloud, sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. Venez nous rejoindre d'ailleurs sur les Cahiers du Catch, hein, si vous savez écrire en français et puis argumenter. Vous pouvez nous retrouver, à passer sur le forum, donner vos avis. Et puis pensez à vous abonner. On a aussi une page Facebook, les Cahiers du Catch CDC. Voilà, dans la semaine bah, vous retrouverez catch-up spécial Monday Night Raw et le catch-up du supplément spécial SmackDown. Écoute mon bon amiral, merci d'être venu, merci d'avoir participé.
Bah, de rien, avec grand plaisir, merci à toi et merci à tous de suivre nos aventures et analyses.
Voilà, merci au public, merci aux auditeurs, on espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt. Voilà, bye bye, ciao ciao.
Ciao.